grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en podcast. Si je vous dis qu'à l'horizon 2100, le niveau des océans grimpera de 7 ou 8 mètres, que plus d'un tiers des terres habitables seront submergées, il y a de fortes chances que vous trouviez cela un peu moins gênant que de renoncer maintenant, là, tout de suite, à votre smartphone, à une connexion internet ou à un voyage en avion, facteur de réchauffement climatique. Ne vous inquiétez pas, votre cerveau et le mien sont exactement câblés de la même manière. Nous avons souvent du mal à nous projeter dans le futur et sommes soumis à la domination du tout, tout de suite. Nous sommes quasiment tous menés à la baguette par un très vieux principe de plaisir qui guide notre encéphale depuis qu'Homo sapiens a couvert la surface de la Terre. Nous verrons ce matin pourquoi notre cerveau est notre pire ennemi, qu'il est doté de failles qui nous conduisent à mettre en danger notre planète en produisant, en consommant toujours plus. Pour nous éclairer ce matin, nous recevons le docteur en neurosciences, Sébastien Boller. Il attend toutes vos questions et réactions au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Je crois savoir que le livre de Sébastien Boller vous a passionné.
Oui, ça a une lecture enthousiasmante pendant mes vacances.
Et c'est le point de départ de votre chronique.
Exactement, parce que moi je vais essayer de faire une sorte de match de boxe entre d'un côté le cerveau et de l'autre côté la conscience. Peut-être qu'en réveillant et en musclant notre conscience, on peut tenter de résister à ce bug cérébral.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Bonjour Sébastien Boller.
Bonjour.
Vous êtes docteur en neurosciences, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, et vous publiez l'un des ouvrages les plus passionnants que j'ai lus ces derniers mois, Le Bug Humain, sous-titré « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher ?» Un ouvrage passionnant, mais assez dérangeant, déstabilisant.
Oui, oui, et au départ, je suis parti effectivement d'une interrogation. On peut pas nier que la situation soit plus que dérangeante. Hein. On a encore entendu les derniers communiqués de l'Institut de la Biodiversité disant qu'il y a 1 million d'espèces qui va disparaître dans les prochaines années, prochaines décennies. J'ai fait le calcul, c'est une espèce qui disparaît toutes les 10 ou 20 minutes. Donc on est en train de détruire, par notre fonctionnement quotidien, notre planète. Vous avez les dernières nouvelles sur la fonte des calottes glaciaires qui fondent 6 fois plus vite qu'il y a 40 ans. Et tout ça pose la question quand même. C'est quand même l'être humain qui est à l'origine de tout ça. L'être humain, il vient de loin. Il a une longue histoire évolutive qui, de plusieurs centaines de milliers d'années. On estime qu'Homo sapiens, ça fait près de 200 000 ans que nous sommes sur Terre. Et nous avons conquis la planète grâce à une intelligence fabuleuse. Et cette intelligence fabuleuse, aujourd'hui, semble comme paralysée devant le spectre de la destruction totale des espèces vivantes et de nous-mêmes, car c'est nous-mêmes qui sommes en train de creuser notre tombe. Donc, mon questionnement, c'était comment le cerveau, qui est aussi
extraordinaire,
capable de, comme vous le disiez, de concevoir des outils aussi perfectionné qu'un smartphone, c'est un micro-ordinateur qui tient dans notre poche, c'est quasiment de la magie. Moi, je serais incapable de vous dire comment ça marche, tellement il a fallu de branches de l'industrie pour concevoir cet objet technologique, des avions, des assistants vocaux dans nos appartements, enfin, tout qui est un produit de l'intelligence humaine. Et malgré tout, cette intelligence, au moment de décider de sa survie ou pas, semble paralysée. Donc, qu'est-ce qui fait que cette intelligence est incapable d'agir? Et effectivement, le constat que j'ai fait, donc en creusant, en détaillant le fonctionnement de notre cerveau, montre qu'il a une énorme faille. En fait, ce cerveau qui a été notre meilleur allié pendant très longtemps est en train de devenir notre pire ennemi.
Et votre livre est né en écoutant les informations quand vous croquez vos tartines du petit déjeuner, les 14 et 15 novembre 2017.
La Terre est dans le rouge. Et cette fois, ce sont 15 000 scientifiques du monde entier qui alertent. Il faut freiner la destruction de l'environnement pour éviter la misère généralisée. Dernier indicateur, les émissions de CO2. Après 3 ans de stabilité, elles sont reparties à la hausse, selon une étude publiée aujourd'hui en marge de la COP23, ce qui est extrêmement inquiétant.
Airbus Cocorico.
Sortez drapeau, sonnez, trompette.
430 avions à fabriquer pour Airbus, un contrat dont rêve tous les avionneurs. Signé aujourd'hui, c'est de l'emploi garanti dans le groupe pour les années qui viennent.
Sébastien Boller, ce sont ces deux informations contradictoires qui vous ont poussé à écrire ce livre.
Oui, effectivement, j'étais en train de tartiner ma tranche de pain le matin. Et là, je me suis dit, mais la veille, je viens d'entendre parler de cette situation catastrophique. Et là, on me dit, cocorico, fantastique, les Airbus, on sait la participation du transport aérien, la destruction de la planète, et en plus les prédictions du transport aérien pour les années qui viennent sont toujours à la hausse. On veut continuer, on sait qu'on va continuer à augmenter. Je me dis, mais comment est-ce qu'on peut dire jour après jour des choses aussi contradictoires? Comment est-ce qu'on n'est pas capable de relever ces incohérences? Et effectivement, quand on ouvre le crâne de l'Homo sapiens, on voit un montage dans le cerveau qui est complètement incohérent. Voilà, c'est-à-dire que vous avez une partie qui crée de l'intelligence, qui s'appelle le cortex, hein, qui a beaucoup évolué au cours de l'évolution récente de l'humanité, mais ce cortex fait de l'intelligence pure, mais nos désirs profonds, ils viennent d'une autre partie de notre cerveau qui est beaucoup plus profondément enfouie, qu'on appelle le striatum, et lui, il réfléchit pas du tout à l'avenir, il cherche à poursuivre des objectifs de pur plaisir dans l'instant.
On va y revenir très largement sur ce noyau cérébral. Il y a d'autres contradictions dans votre livre. Par exemple, vous prenez l'exemple de la fonte de la calotte glaciaire. Cette fonte s'accélère avec des conséquences désastreuses. Et dans le même temps, nous achetons des monnaies virtuelles comme le Bitcoin qui contribuent à la fonte des glaces. Expliquez-nous.
Vous avez peut-être suivi là, depuis un ou deux ans l'énorme spéculation boursière autour du Bitcoin. C'est vraiment ce qui fait, ce qui passionne beaucoup les investisseurs. C'est la grande mode. Donc c'est une monnaie dématérialisée. Ce qu'on dit moins souvent, c'est que pour faire exister cette monnaie, il faut en fait un travail informatique très puissant qui requiert des serveurs de haute puissance également, et qui dégage beaucoup de chaleur, ces serveurs informatiques. Et donc, pour maximiser le rendement de ces serveurs, il faut les mettre dans des endroits où il fait frais pour évacuer la chaleur. Et un grand nombre d'entre eux, on a eu la bonne idée de les enfouir dans le sous-sol de l'Islande, justement, parce qu'il fait très froid. Et donc, vous avez des quantités de chaleur qui sont dégagées, qui sont, vous avez lu le chiffre, oui.
La consommation annuelle de ce réseau, de serveurs numériques dépasse les 30 TWh, soit l'équivalent de la production énergétique de la Hongrie ou de l'Irlande.
Voilà, et on met ça sous le sol gelé de l'Islande pour améliorer les rendements. Et évidemment, ça fait des flux de chaleur qui sont très dommageables. Ce qui est terrible, je trouve, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où tout va tellement vite que simplement pour rester sur place, pour faire fonctionner un système monétaire, on est obligé de dépenser des quantités d'énergie gigantesques, sans toujours le dire d'ailleurs à l'opinion, alors que il suffirait de quelques billets qui durent pendant des siècles avec un impact carbone presque nul.
Un autre exemple de contradiction, je le disais en introduction, je sais qu'un tiers des terres habitables seront probablement submergés dans 40 ans. Pourtant, là, aujourd'hui, je ne veux pas renoncer à mon smartphone, à une connexion Internet, à ma voiture ou à un voyage en avion. C'est facteur évidemment de réchauffement climatique. Vous citez un chiffre effrayant dans votre livre. 800 millions de tonnes de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre, c'est le fruit de cette fabrication de smartphones, d'usage des moteurs de recherche, etc. etc.
Oui, on imagine toujours que tout ce qui est dématérialisé, entre guillemets, donc tout ce qui relève de l'économie du numérique, n'a pas d'impact. Parce qu'on se dit, il faut arrêter de couper des forêts, donc le papier c'est pas bien, donc on va prendre plutôt des applis, des documents dématérialisés, mais l'impact est énorme. Il y a un calcul qui a été fait justement il y a quelques mois, à propos des tickets de caisse qui sont édités chaque année en France. Il y a 200 000 kilomètres de tickets de caisse qui sont édités, donc on s'est dit, on va faire des tickets de caisse dématérialisés, et en fait le bilan carbone des tickets dématérialisés est encore pire que le papier, deux fois pire. Mais ce que ça pose comme question, c'est pourquoi est-ce qu'on tient autant à ces gadgets? Et c'est là aussi qu'on trouve une réponse dans le fonctionnement de notre cerveau. C'est quelque chose qui flatte aussi notre envie de statut social, avoir l'appareil dernier cri. Et voilà. Et c'est tellement, tellement satisfaisant dans l'instant qu'on pense pas à l'avenir.
Et vous écrivez une chose forte. Nous sommes les pilotes d'un avion dont les témoins lumineux hurlent à tue-tête pour signaler un crash imminent. Nous assistons sans réaction aux préparatifs de notre propre enterrement.
Voilà, et puis c'est comme si on se disait, il reste 5 minutes avant le crash, donc autant en profiter. On entend de plus en plus ça. Cette focalisation sur le présent, vu que l'avenir de plus en plus apparaît comme condamné. Et là encore, c'est effectivement dû à ce défaut de branchement dans notre cerveau.
Alors comme dans la série Columbo, on va délivrer dès le début le nom du coupable, vous l'avez évoqué, c'est le striatum qui est logé dans notre noyau cérébral. Faut bien retenir ce nom, c'est le héros de notre émission ce matin. Expliquez-nous son fonctionnement à ce striatum.
Alors, le striatum, c'est une structure de notre cerveau qui est très ancienne, qu'on avait déjà il y a des millions d'années chez nos ancêtres primates, qu'on trouve même chez tous les mammifères. Prenez un rat ou prenez un chat, vous avez au centre du cerveau, comme ça, une structure un peu globuleuse qui, chez l'être humain, fait à peu près la taille d'une grosse prune, et qui libère une molécule qui s'appelle la dopamine, que certains connaissent sûrement, qui est à l'origine du plaisir qu'on a quand on fait certaines actions. Donc c'est ce qui va guider nos motivations profondes, parce qu'on cherche toujours à faire quelque chose qui nous apporte de la gratification. question. Et ce qu'on sait maintenant grâce aux études de neuroimagerie, d'IRM, c'est on sait très bien dans quelle situation ce striatum nous donne du plaisir. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle des renforceurs primaires, parce que c'est les guides de notre action au jour le jour qui renforcent notre comportement en nous envoyant de la dopamine.
Et est-ce qu'on peut dire que les neurones à dopamine dictent leur loi dans notre cerveau ?
Ils dictent leur loi, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut jamais oublier, c'est que ce striatum nous a aidé à survivre. Prenez par exemple le premier renforceur primaire, ce qui nous donne de la dopamine en premier lieu, c'est de manger. Voilà. Donc ça, c'était présent bien avant qu'on développe notre intelligence et notre cortex. Donc les neurones à dopamine ont installé leur prolongement dans tout notre cerveau. Et par exemple, pour la nourriture, bah, dès qu'on mange, voilà, on a de la dopamine. Et donc ça, ça guide notre comportement au jour le jour. Si on n'avait pas ce diktat absolu depuis des millions d'années, nous ne serions pas là, nous n'aurions pas subsisté. Donc ce diktat de la dopamine dans notre cerveau est absolument indispensable à la vie.
Et qu'on retrouve dans cinq grandes motivations, voilà. Là, vous l'avez dit, manger, se reproduire, acquérir du pouvoir, le faire avec un minimum d'effort, et puis glaner un maximum d'informations sur son environnement. Oui. Ces cinq grandes motivations de notre cerveau sont guidées par la dopamine.
Et exactement, voilà, parce qu'elles sont absolument vitales. Une des moins immédiate, quand on en parle, c'est l'information. On se dit pourquoi est-ce que c'est si vital? Bah, il suffit de se dire que ce striatum était présent déjà au paléolithique, hein, et à l'époque, trouver une information dans votre environnement, aussi subtile soit-elle, par exemple une trace de pas dans la boue d'un animal, ça pouvait signifier la vie ou la mort. Ça vous mettait sur la piste d'une proie que vous allez pouvoir manger ou d'un prédateur qui allait vous dévorer. Donc c'est très important de détecter de l'information dans notre environnement. Donc ça, c'est le premier renforceur. Et à quoi servait l'information, principalement, comme j'ai dit, à manger. Donc là encore, une fois que vous trouviez de la nourriture, un gibier à manger, le plus important, c'était d'en manger le plus possible, le plus rapidement possible, parce que vous n'étiez pas sûr d'en retrouver un autre avant plusieurs semaines, et qu'il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque, donc il fallait faire le plein. Et ça nous a incité, en libérant de la dopamine, à manger le plus possible, le plus rapidement possible, ce qu'on appelle les gènes gloutons, qui, à cette époque reculée, étaient très intéressants, parce que on n'était pas sûr, effectivement, d'avoir toujours à manger. Mais aujourd'hui, dans une société de pléthore, où il suffit d'appuyer sur le clic de son ordinateur pour se faire livrer à manger ou d'aller dans la rue en moins de 10 minutes trouver un bon hamburger bien dégoulinant, bien gras, ces gènes gloutons ne savent pas s'arrêter, la dopamine est délivrée en continu et on se retrouve avec des problèmes de surpoids, d'addiction à l'alimentation, d'obésité qui forment la toile de fond aujourd'hui de nos problèmes de santé publique. On meurt plus aujourd'hui de suralimentation dans le monde que de la faim.
Et c'est ce système de récompense dans notre cerveau qui nous pousse également à acquérir du pouvoir. Toujours plus de pouvoir. Alors, dans tous les domaines de notre vie.
Le besoin de statut social, effectivement, on s'aperçoit dans les expériences en laboratoire que ça provoque une activation directe du striatum avec une libération de dopamine. Et là, quand on se demande pourquoi, en fait, de nouveau, l'explication, on l'a dans la structure, en fait, des groupes sociaux, des hiérarchies, depuis les primates qui ont été nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous arriviez à être le chef dans votre groupe, à avoir plus de statut social, ça vous donnait des avantages en termes de partenaires sexuels, donc de reproduction, donc vous pouviez répliquer votre ADN, en termes d'accès à la nourriture aussi, en termes de minimisation de vos efforts. Donc le statut social était un garant de meilleures chances de survie. Donc depuis toujours, on est programmé pour rechercher un peu plus de statut social que notre voisin. Et aujourd'hui, comment on fait ? Eh ben, on va sur les réseaux sociaux, on clique, on gagne un petit peu de likes, voilà. Et donc, on nourrit ce besoin de statut social. À l'échelle industrielle, on est 3 milliards à le faire quotidiennement. Prenez Facebook, Instagram, c'est ça, c'est du statutaire.
Et sans ce striatum, nous n'existerions pas aujourd'hui?
Sans ce striatum, nous n'aurions jamais eu ni l'envie de manger, ni l'envie de se hisser un peu plus haut dans une hiérarchie, ni l'envie
de bâtir des civilisations.
De se bâtir des civilisations, et effectivement. Quand vous prenez des grands conquérants qui cherchaient à étendre leur pouvoir, César, il disait, moi je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome. Ça voulait dire, le plus important, c'est d'être tout en haut. Et c'est ça qui a effectivement fait de l'espèce humaine une espèce conquérante aussi. Et alors, dans le domaine du sexe, évidemment, si vous n'aviez pas de la dopamine qui vous donnait envie d'avoir des rapports sexuels, le maillon essentiel de la transmission de la vie, qui est la reproduction, aurait été interrompu et nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, striatum, c'est lui qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui.
Qui est le grand ennemi du striatum dans notre cerveau ? C'est le cortex ?
C'est celui qui peut éventuellement dire stop.
Expliquez-nous la fonction du cortex.
Le cortex,
l'une des grandes fonctions.
Principalement, il sert à créer de l'abstraction et de la planification. Voilà. Quand vous évoluez dans votre journée, vous créez des buts, vous dites il faut que j'ai terminé par exemple ce projet pour telle heure, pour telle deadline, c'est votre cortex qui vous le dit. Donc il essaye de tenir compte des données sociales un petit peu complexes, mais finalement il se retrouve à construire des outils, des conditions de vie toujours qui vont satisfaire les besoins du striatum. Il suffit de voir aujourd'hui, vous voulez construire un Airbus justement pour traverser la planète, il va falloir des deadlines très très strictes, une planification extrêmement serrée, des concepts scientifiques très très complexes, mais au final, c'est pour pouvoir donner plus de pouvoir, de transport, plus de confort, minimiser l'énergie, et tout ça c'est ce que cherche le striatum. Donc on a un cerveau qui dispose d'un instrument très perfectionné qu'est le cortex, mais qui est au service de désirs très primaires dictés par notre striatum.
Et c'est pour cette lutte entre le striatum et le cortex, ça permet de comprendre pourquoi nous n'arrivons pas à nous projeter à long terme pour limiter le réchauffement climatique et que nous préférons consommer là, tout de suite, maintenant. De façon schématique, on peut résumer les choses de cette manière.
Tout à fait, c'est exactement ça qui se passe. Si je vous dis, dans 30 ans, un tiers des territoires terrestres seront submergés, ça c'est votre cortex qui se représente cette vision d'avenir catastrophique, d'accord ? Alors lui, il essaye de dire au striatum, laisse tomber ton smartphone, arrête de prendre l'avion, arrête de manger de la viande, éteins la lumière à 22h. Mais le problème, c'est que c'est pas lui qui commande. C'est le striatum qui est aux manœuvres, qui est à la commande, parce que ce qui se passe, c'est que lui, le striatum, il ne voit que ce qui se passe dans l'instant. Il est absolument aveugle aux enjeux à long terme. Si vous donnez par exemple une récompense possible à n'importe qui, à vous, à moi, en disant ça va être dans 10 ans, le striatum ne s'active pas. En revanche, vous dites là, tu peux avoir tout de suite quelque chose de très plaisant maintenant, alors là, il s'active. Donc quand il faut faire le choix entre une gratification instantanée, passer des vacances à l'autre bout du monde pour trois fois rien, ou surfer sur Internet depuis son mobile, dans le métro, des gratifications instantanées, versus la catastrophe dans 10 ans, le striatum ne va s'activer que pour la gratification instantanée. Il va vous donner de la dopamine pour le plaisir ici et tout de suite et ne va absolument pas réagir aux enjeux plus lointains. Ce qui fait aussi que toutes les technologies qui vous proposent des produits ou des services à court terme ont tendance à se développer. On attend de moins en moins pour avoir un service en ligne. On supporte plus quand une application met plus de quelques secondes pour charger sur un ordinateur. On est de plus en plus esclave de l'instantanéité.
On va y revenir. Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres motivations qui pourraient sécréter de la dopamine, par exemple, parce qu'on a parlé du pouvoir, de la quête de statut, de survivre, etc. Mais qu'en est-il de, par exemple, l'estime des autres, le sentiment d'avoir bien fait une bonne action, d'avoir rendu service, d'avoir été justement, par exemple, responsable, etc. Est-ce que ces actions-là et ces comportements-là sécrètent aussi ou pourraient sécréter aussi, s'intégrer au circuit de la récompense ?
Est-ce que ça sécréterait pas plutôt de la sérotonine, justement ?
Non, mais écoutez, alors de la sérotonine certainement à long terme, mais déjà, vous avez tout à fait raison de le souligner, et puis c'est une des minces lueurs d'espoir que j'ai évoqué dans le livre, c'est que oui, les comportements d'altruisme, par exemple, peuvent libérer de la dopamine et donner du plaisir. C'est tout récent comme découverte, ça vient de travaux à l'université de Zurich, il y a à peine plus d'un an, où on s'est aperçu qu'effectivement, si vous donnez une somme d'argent à des volontaires, et que vous leur donnez le choix entre soit garder l'argent pour eux, donc la perspective totalement égoïste, accroissement de son pouvoir, ou le partager avec un inconnu, eh bien certaines personnes partagent et activent effectivement la partie du cerveau qui donne du plaisir de la dopamine, le striatum, mais il se trouve que ces personnes sont en majorité des femmes. Voilà. Et les hommes ont tendance à tout garder pour eux, et donc ça pose la question, pourquoi est-ce que l'altruisme chez les femmes se traduit par un plaisir biochimique et pas chez les hommes?
On oppose souvent la sérotonine et la dopamine.
Oui, la dopamine va être plus engagée dans tous ces comportements qui sont tournés vers un désir et un plaisir anticipé assez intense, assez instantané, alors que la sérotonine va moduler plus l'humeur générale. Donc l'humeur à long terme, le fait de se sentir plutôt bien ou de se sentir plutôt mal, et notamment dans la dépression, il y a un manque de sérotonine qui est tout à fait attesté.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions à Sébastien Boller au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. Alexia Rivière, Alexia Lacour et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Bove et c'est réalisé par Stéphanie Texier.
pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi surexposer mes yeux. Derrière un Kleenex, je serai mieux. Comment te dire adieu?
Françoise Hardy, comment te dire adieu?
Notre maison brûle.
Grand bien vous fasse.
Et nous regardons ailleurs.
À l'IRBI.
La Terre et l'humanité sont en péril.
Sur France Inter.
Et nous en sommes tous responsables.
10h29 et on se demande ce matin pourquoi notre cerveau met en danger notre planète. Au banc des accusés, le circuit de la récompense.
Le siège du plaisir se trouve dans le cerveau. En son milieu, une région appelée aire tegmentale ventrale centralise les informations sur nos besoins fondamentaux. Selon le niveau de nos manques, elle libère un messager chimique nommé dopamine, chargé de communiquer l'information à une autre zone du cerveau dite noyau accumbens. Reliées, ces zones forment alors ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Son but est simple, combinant l'aiguillon du manque avec l'appât du plaisir, il nous pousse à répéter inlassablement les comportements indispensables à la survie individuelle.
Un extrait du site Le Blob. Sébastien Boller, je rappelle que vous êtes docteur en neurosciences et que vous publiez Le Bug Humain, sous-titré « Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète ». Alors, aux commandes de cette destruction, pour le dire vite, un noyau cérébral, le striatum, qui est la tour de contrôle du circuit de la récompense. Pour ceux qui nous prennent en route, rappelez-nous sa fonction principale à ce circuit de la récompense, à cette dopamine.
Bah, sa fonction, c'est de nous donner du plaisir quand on fait des choses qui, en principe, nous font du bien, c'est-à-dire qui nous aident à survivre. Il a été forgé il y a très très longtemps, donc à l'époque ça nous aidait à survivre. Mais aujourd'hui, dans un monde où on est entouré de technologies qui ne font qu'alimenter ce système, il part en vrille, et on n'arrive plus à l'arrêter, et on se retrouve justement avec notre planète qui n'a plus assez de ressources pour le nourrir.
Alors vous expliquez dans votre livre que notre économie de croissance est idéale pour ce striatum, pour ce circuit de la récompense.
Oui, il est terrible ce circuit de la récompense parce qu'il est régi par un principe simple. C'est la lassitude, c'est-à-dire que si je vous donne tous les jours la même cacahuète ou ou je ne sais pas le même nombre de likes sur votre profil Facebook par exemple, au début on va voir le striatum qui va vous envoyer des décharges de dopamine, donc de plaisir, mais très rapidement, si la stimulation reste constante, il va diminue la dopamine et à la fin, on n'aurait plus du tout, donc frustration. Et le seul moyen pour faire réagir de nouveau ces neurones à dopamine, c'est d'augmenter les doses. Donc vous allez devoir manger deux cacahuètes au lieu d'une, pour commencer, puis après beaucoup plus, ou essayer d'avoir encore plus de likes, ou avoir une automobile suréquipée, parce que oui, équipée, au bout d'un moment, ça suffit plus. Donc évidemment, on voit comment s'articule cette croissance biochimique dans la dopamine du striatum avec la croissance économique qui ne fait que répondre à ce principe inhérent à notre cerveau.
Et vous écrivez que la catastrophe consumériste dans laquelle nous sommes n'existerait pas sans deux ingrédients, le cerveau d'un primate et la technologie d'un dieu.
Nous avons une technologie quasi divine. Aujourd'hui, on peut sauver des gens d'un arrêt cardiaque, de presque n'importe quel type d'infection, si on a le bon service de réanimation. On peut nous faire vivre de plus en plus longtemps, peut nous faire voyager à la vitesse du son. Le cortex qui nous a créé ces technologies n'a pratiquement aucune limite. Mais tout ça est au service des désirs d'un enfant ou d'un primate, parce que nos désirs fondamentaux, nous n'avons pas été capables de les changer. Le cerveau humain est très bon pour réaliser ses objectifs, mais très mauvais pour les établir. Il établit toujours les mêmes. On n'a jamais pu se donner un objectif de société un peu plus intelligent que ces cinq grands désirs de notre Sriatum.
Very Bonnie nous dit par courriel, n'oubliez pas de dire que les marchands, les constructeurs nous poussent, nous créent des besoins, provoquent des besoins, nous poussent à consommer.
Oui, bien sûr. Ça remonte aux années 20, avec le rapport Hoover, à l'époque, quand l'économie américaine donnait des signes d'essoufflement, parce que les chaînes de production produisaient de plus en plus, mais les gens, ils n'avaient pas forcément envie de consommer des choses dont ils n'avaient pas besoin. Et le rapport, qui a presque un siècle, avait identifié un ressort fondamental de l'être humain, il disait, si on veut que les gens consomment plus, il faut commencer à leur dire, regardez votre voisin, vous avez déjà une voiture, mais lui, il en a deux, alors si vous voulez être au niveau... Il va falloir peut-être aussi en acheter une deuxième, peut-être une troisième, si vous voulez être au-dessus. Et c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. Et ça appuie sur une corde sensible de notre Sriatum, c'est le besoin de statut social. Et les stratèges donc de l'économie américaine, il y a un siècle, l'avaient identifié. Et ça a été le début de la publicité, pas comparative, mais qui jouait sur le besoin de statut social. Et on est toujours là-dedans. Si vous écoutez aujourd'hui les publicités dans les médias, souvent c'est votre frère ou votre voisin sera très jaloux en voyant aux commandes de cette voiture suréquipée, et ainsi de suite, et ainsi de suite.
Et cette comparaison sociale a donc un impact sur la consommation, sur l'environnement. Vous citez Charles Kettering, qui était vice-PDG de General Motors, qui disait « La clé de la prospérité, c'est la création d'une insatisfaction organisée. »
Oui, exactement. Voilà. Le striatum n'est satisfait que pendant un moment. Ce qu'on disait, la dopamine finit par s'essouffler.
Et c'est ce qu'on appelle l'habituation hédonique.
Voilà, l'habituation hédonique, c'est-à-dire l'habituation au plaisir. Plaisir d'un jour et la lassitude du lendemain. Et il faudrait s'inspirer de philosophes comme saint Augustin qui disait « La sagesse, c'est de continuer à désirer ce qu'on a déjà. » Ah, si on arrive à vivre avec cette maxime dans la tête, on fera énormément de progrès. Mais c'est très difficile. Donc on veut toujours plus. Mais comment continuer à vouloir toujours plus, sachant qu'on a une quantité de ressources qui est limitée? Vous avez entendu parler de l'overshoot day.
C'est quoi?
C'est le jour dans l'année où l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la planète mettrait un an à renouveler. Et aujourd'hui, au mois d'août, on a déjà tout consommé. Donc en fait, on puise dans les réserves sans arrêt. Et plus un pays est riche sur ces données, plus son jour du dépassement est tôt dans l'année.
Je vous cite, nous brûlons notre propre navire à seule fin de pouvoir hisser la tête un peu plus haut par-dessus l'épaule du voisin, ou du moins ne pas se laisser distancer par le gros du peloton.
Voilà, c'est l'angoisse. L'angoisse d'être exclu, d'être déclassé. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que vous pouvez vous sentir déclassé en ayant en fait des biens matériels que les gens, même il y a 200 ans, n'aurait même pas pu rêver. Donc c'est toujours la comparaison qui compte. Et les enquêtes montrent par exemple que ce qui fait la satisfaction au travail, c'est pas le salaire absolu, mais c'est le salaire par rapport aux collègues.
Le problème, c'est que nos désirs sont insatiables.
Oui. Une fois que vous avez satisfait...
Le striatum, voilà, il en veut toujours plus.
Il en veut toujours plus, à cause de ce principe de croissance dans nos neurones à dopamine. Et il faut apprendre, finalement, à le limiter, à se satisfaire de peu. Ça va devenir un enjeu de survie. C'est plus ce qui est assez intéressant à l'époque où on vit, je trouve, c'est que les enjeux moraux ou les enjeux de découverte de soi-même, de connais-toi toi-même, les enjeux de modération qui étaient ceux des philosophes, par exemple, de la Grèce antique, sont devenus des enjeux de survie matérielle. On est passé de la morale individuelle à la survie matérielle et collective. Donc là, c'est plus simplement une quête du bien, entre guillemets, pour la beauté de la chose, mais simplement pour la survie.
Alors pour rester dans le gros du peloton, comme vous l'écrivez, eh bien nous avons également besoin d'informations. Nous avons faim d'informations et ça répond à l'une des grandes motivations de notre cerveau. Et ça a un impact sur notre environnement.
Oui.
Expliquez-nous.
Le besoin d'informations, c'est le premier. C'est-à-dire que pour survivre dans un environnement hostile, la clé, c'est de trouver l'information cruciale. Par exemple, il y a une brindille brisée qui signale qu'il y a un animal qui est passé là. Et donc, savoir s'enfuir si c'est un prédateur ou savoir lui courir après, savoir repérer d'autres informations qui précisent la piste. Voilà. Et nos ancêtres sont devenus très très bons pour détecter ce genre d'informations. Si vous vous promenez en forêt, vous verrez qu'il y a très peu d'informations détectables. C'est un milieu pauvre en informations, le milieu naturel. Et donc, il fallait développer une très grande sensibilité à des informations infimes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les centaines de milliers d'années qui ont suivi? Le cortex humain s'est développé et il a créé un monde informationnel. Alors ça a commencé par le langage, l'écriture, l'imprimerie. Ensuite, les médias digitaux, l'information sur les écrans, sur les télévisions, sur les écrans au bureau, sur des smartphones, partout. Vous prenez dans la rue aujourd'hui, c'est un milieu surchargé d'informations. Que fait notre cerveau primitif, notre striatum, qui a été élevé à la dure dans la savane où il y avait très peu d'informations? Eh bien, il vous reste tout ça, il peut pas résister. Parce qu'il a jamais eu de fonction stop à l'époque. Parce que s'il en avait une, il serait pas là. D'accord? Donc il peut pas résister. Donc il sait plus où donner de la tête. Et ça donne le spectacle qu'on a de nos semblables aujourd'hui. Par exemple, vous prenez le métro, le bus, les transports en commun, vous voyez des gens qui se passent leur temps à faire défiler. Il y a un mot, c'est scroller sur son smartphone pour se nourrir d'informations qui sera oubliée la minute d'après.
Et quel est l'impact sur l'environnement de cette fin insatiable d'informations?
C'est l'industrie du digital, du numérique aujourd'hui qui pèse en termes d'émissions de gaz à effet de serre, l'équivalent est quand même dépassé le secteur aérien, par exemple. Donc c'est gigantesque. Et ça, on ne le sait pas forcément, parce que c'est immatériel. Pour l'utilisateur, c'est immatériel. On a l'impression que ça n'a pas d'impact. On clique, on touche des images, des lumières. Mais derrière, il y a les serveurs qui consomment énormément d'énergie qui est produite à partir des énergies fossiles principalement. Et puis, il y a le coût, l'impact environnemental de l'extraction des matières premières qui servent à fabriquer tous ces outils numériques qui ont un impact désastreux.
Si on a du mal à modifier en profondeur nos comportements, c'est aussi parce que nous sommes prisonniers du présent. Vous parlez dans votre livre de l'implacable force du présent.
Ouais. Moi, j'ai été fasciné par la scène au moment où les États-Unis se sont retirés des accords de Paris. Où c'est Donald Trump donc qui a décidé de se retirer. Il y a eu une petite vidéo qui est circulée sur les réseaux sociaux où on le voyait devant le Parlement en train de montrer un document sur lequel les internautes avaient trafiqué en disant je me fous du climat, de toute façon je serai mort bientôt. Et ça résumait une idée, c'est de dire finalement après moi le déluge. Et donc tout le monde se moquait de Trump en disant il pense qu'à l'instant présent, et puis il est vieux, et puis il va mourir, et puis il va détruire la planète en attendant, c'est pas grave. Mais en fait, moi, ça m'a interpellé. Je me suis rendu compte qu'on fonctionne tous comme ça. Moi, j'ai écrit ce livre, je me suis rendu compte de la façon dont fonctionnait notre cerveau, dont on était esclave de ces mécanismes. J'ai réduit un petit peu certains usages néfastes pour mon environnement, mais si j'étais vraiment conséquent, j'aurais changé totalement de vie. Je serais même peut-être pas là à ce micro en ce moment. Et je me rends compte qu'on est pris dans une gangue. On n'arrive pas à s'en sortir. Et je pense aussi, c'est qu'on se dit, à quoi ça sert que je le fasse? C'est une goutte dans l'océan. Vu que d'une part, de toute façon, toute la société continue de la même façon. Et puis même si il y a des prises de conscience, par exemple, dans certains pays d'Europe occidentale, comme en Scandinavie, en Suède, par exemple, en ce moment, il y a un phénomène fascinant, c'est la honte de prendre l'avion. Il y a des choses qui se passent en Scandinavie, ils ont une conscience très... Mais vous prenez par rapport à ce qui se passe en Chine, où on ouvre une centrale à charbon toutes les semaines, vous dites, à quoi bon? Donc je me suis dit, finalement, qu'est-ce qui nous reste? Vivre dans le présent. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire.
Ne pas prendre l'avion, d'accord, mais alors, est-ce que vous êtes prêt à abandonner votre smartphone?
Alors moi, je serais prêt, effectivement, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On s'est mis dans un piège. On a construit en fait un environnement hyper technologisé dont on est entièrement dépendant. Aujourd'hui, si vous voulez ne pas avoir de smartphone, il faut vous lever de bonne heure, il faut avoir des ressources en temps, en argent, en capacité de s'organiser différemment. Et si vous êtes sous la pression, comme la plupart des gens, d'essayer de garder leur emploi en restant dans le rythme, en répondant instantanément, en devant consulter ses mails chez soi, souvent avec l'imbrication des sphères privées professionnelles, vous avez une épée de Damoclès. Donc on est tous prisonniers de ça. Donc on pourra s'en sortir qu'en ayant un mouvement coordonné de renoncement à un certain nombre de choses. La coordination, elle viendra d'où ? Alors, il y a des gens qui parlent d'auto-organisation de la société, de prise de conscience, de communauté dans leur coin qui font des choses, mais la coordination à grande échelle ne pourra venir que d'une action politique vraiment d'ensemble.
Revenons à notre fameux striatum. Pour lui, le futur ne compte pas, mais comment expliquer que pour certaines personnes ne cèdent pas au tout de suite, alors que d'autres sont capables de penser à l'avenir lointain? Comment vous expliquez qu'il y ait ces différences?
Alors, il y a des différences déjà innées, parce qu'il y a certaines personnes qui ont effectivement des neurones à dopamine qui déchargent un peu plus violemment que d'autres et qui vont donc plus être vulnérables à l'attrait de l'instant, d'accord? Mais principalement, ce sont des différences d'origine éducationnelle. C'est-à-dire que ce striatum, quand même, il est connecté au cortex, qui peut faire apprendre. Par exemple, quand un étudiant dit il faut que je bosse pendant 5 ans ou plus pour réussir à être médecin, il a intérêt quand même à avoir un cortex qui lui dit là, il faut miser sur le long terme. Donc le striatum qui te dit d'aller boire un pot avec les copains tous les soirs, il va falloir le mettre entre parenthèses. Donc quand on a été éduqué depuis tout petit dans les valeurs de la patience, de l'effort, du renoncement au plaisir instantané, là on voit même se développer des connexions qui vont du cortex vers le striatum pour lui dire non, calme-toi, attends, le plaisir ce sera pour dans 10 ans. Et donc c'est très très important d'inculquer aux enfants justement la patience. Si tu veux un bonbon maintenant, attends peut-être le goûter, des choses que c'est fondamental. Donc ça se construit.
Je crois que vous avez répondu à Thomas qui nous demande, j'aimerais savoir s'il est établi que les gens qui s'intéressent au changement climatique et qui agissent ont un striatum plus faible que celui des autres.
Soit ils ont un striatum plus faible, soit ils ont une raison et un cortex plus développé qui a réussi à créer ces connexions. Je pense pas que leur striatum soit plus faible. Je pense que leur striatum, il a envie justement de continuer à avoir des plaisirs, mais qu'il ne les place pas au même endroit que les personnes qui sont prisonnières de l'instant ou de la nourriture facile ou des stimuli primaires. Simplement, ils ont compris que pour continuer à pouvoir faire fonctionner le striatum dans 20 ou 30 ans, il faut faire intervenir la conscience et le cortex cérébral.
Allez, vous pouvez poser toutes vos questions à Sébastien Boller au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse.
Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain in skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Qu'est-ce que c'est beau, Bruce Springsteen interprété Hello Sunshine.
France Inter.
rend bien vous face. Ali Rebbi.
10h47 et on se demande pourquoi notre cerveau met en danger notre planète en compagnie de Sébastien Beller qui publie le bug humain sous-titré pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Alors Daniel nous dit sur notre page Facebook on détruit la planète mais maintenant grâce à notre cerveau qui n'est pas parfait, on a une excuse.
Surtout pas. Non, c'est pas une excuse, c'est une histoire de soi. Essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Pourquoi nous, les humains, nous posons un tel problème? Pourquoi nous sommes la seule espèce qui va peut-être détruire toute une planète? C'est de comprendre où est le bug pour ensuite le désamorcer. On a toujours une liberté. On n'est pas purement esclave de notre cerveau, heureusement. C'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de plastique, le cerveau. On peut changer aussi nos désirs. Mais il faut savoir quelles sont les contraintes. L'ennemi, il est à l'intérieur. Voilà. Et connais-toi toi-même, ça veut dire connais ton ennemi et c'est nécessaire pour vaincre.
Bonjour Pascal, vous appelez Dorly, bienvenue.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel.
Avec plaisir.
Oui.
On vous écoute, Pascal.
Alors je voulais téléphoner et témoigner du plaisir que j'avais à vivre quelques frustrations qui me semblent de bon aloi dans l'époque qu'on vit. Je ne prends plus l'avion depuis un moment, j'en suis très content. Je m'astreins à ne plus utiliser la voiture, je prends exclusivement les transports en commun. J'y trouve un plaisir incroyable et pour moi, ce plaisir qui est aussi de la frustration, parce que bien entendu, quand on est dans les transports en commun, c'est la promiscuité avec les gens, mais je me trouve très très utile. Je prends l'eau de vaisselle pour la vider dans les chiottes, ça me fait faire des allers-retours incroyables, j'économise de la flotte. Et en fait, ce que j'ai envie de dire, je pense que ce cerveau qui est une machine très très puissante, comme vous le dites, votre émission est géniale.
Merci.
C'est important de la connaître pour savoir quand même qu'on peut se battre contre et développer de l'intelligence. Moi, j'ai presque envie qu'on... Je peux pas vous donner de conseils, mais j'aimerais qu'on termine cette émission sur une note de véritable espoir. Pas ces espoirs de pacotille qu'on nous vend avec le greenwashing et ces espèces de choses, de sentences. L'homme finira par s'en sortir, il a toujours trouvé des solutions. Moi, je pense que c'est une connerie énorme. Je voulais dire qu'il y a du plaisir à ne pas céder au plaisir de suite.
Sébastien Beller.
C'est merveilleux ce que vous dites. C'est un immense espoir parce que j'en suis intimement convaincu. Et vous avez dit quelque chose qu'il faudrait qu'on retienne tous. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui nous donne vraiment du bien-être, du bonheur, peut-être plus que du plaisir, c'est de, vous avez dit, se sentir utile. Moi, ce que je vois dans cette façon de guider l'action, c'est l'idée que ça a un sens. Voilà. C'est que ce n'est pas juste quelque chose d'automatique. C'est pas juste un engrenage de rapidité et de plaisir facile et artificiel dans lequel on a tous été embarqués, mais c'est de se dire que ce qu'on fait quelque part trouve une place dans un enchaînement global d'actions qui peut se défendre simplement. C'est-à-dire que vous pouvez assumer vos actions, vous trouvez que c'est pas vain, que ça a un impact mais positif. C'est-à-dire que l'être humain qui se comporte de cette façon n'est plus insignifiant. Il peut retrouver un rôle, il peut retrouver un contrôle sur soi, mais aussi sur son avenir. Et ça, c'est la plus grande source de satisfaction.
Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir appelé. Belle journée à vous. Un mail, Anne nous demande comment éduquer le striatum à la frustration et comment muscler le cortex.
Alors, voilà, éduquer le striatum, c'est tout un programme. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on a essayé de frustrer le striatum. Alors, frustrer, il y a le bon sens dont nous parlait notre auditeur juste avant, et puis le mauvais sens, c'est de le brider, c'est-à-dire le considérer comme un animal à mettre en cage, brider tous les désirs. Ça a été le programme quand même de pas mal de religions, avec les péchés capitaux. Mais alors, le problème, c'est que souvent, quand on fait ça, ben, il y a des effets rebonds, c'est-à-dire que quand on se bride trop, au bout d'un moment, ça rejaillit. On se livre au comportement qu'on essayait d'éviter, avec encore plus de débauche.
Ce n'est pas librement consenti.
Quand ce n'est pas librement consenti. Et puis, il faut jamais oublier, en fait, qu'aucune action humaine ne peut se faire sans qu'il y ait un moment un petit plaisir quand même. Notre auditeur tout à l'heure nous disait que ça lui apportait du plaisir, et c'est vrai. Et chez les grands altruistes, par exemple, je cite Mère Teresa dans le livre, il y a une immense libération de dopamine dans le striatum, mais qui est provoquée non pas par la satisfaction de ces plaisirs qui n'ont été dictés par notre cerveau reptilien, mais par exemple par le partage. Et l'expérience dont on parlait tout à l'heure, qui a été faite dans une université en Suisse il y a pas longtemps, montrait que le striatum par exemple des femmes, quand elles partagent, s'activent, et que quand on s'est demandé pourquoi l'altruisme donnait un plaisir comme ça biochimique, on s'est rendu compte qu'en fait c'est éducationnel, c'est-à-dire qu'on voit que les petites filles dans toutes les familles du monde, le plus souvent quand elles ont des comportements de partage, on les félicite, c'est-à-dire qu'on leur donne du statut social, et ça c'est un renforceur primaire du système à dopamine, et donc on leur fait libérer du striatum quand elles ont ces comportements. C'est-à-dire qu'on pourrait faire pareil avec les petits garçons, et on aurait même intérêt à le faire, et avec tout le monde, et ça veut dire que ce système est plastique. Donc pour répondre à la question comment l'éduquer, c'est en associant le plaisir biochimique à des comportements valorisés socialement. Ça, c'est extrêmement important pour l'avenir.
Thibaut de Saint-Maurice, vous avez lu le livre de Sébastien Boller et ça nourrit votre réflexion.
Oui, je me dis aussi que pour éduquer donc ce striatum, on peut travailler, et vous le suggérez d'ailleurs dans votre livre, à muscler notre conscience, à éveiller davantage notre conscience pour se poser davantage la question du sens de ce que l'on fait. Tout le problème donc viendrait de notre cerveau et de notre intelligence qui continue de tourner à fond pour obtenir le maximum de récompenses. Alors comment lutter contre ce plein régime? On pourrait donc évoquer cette piste, développer notre conscience pour mieux comprendre le sens de ce que nous faisons et se donner les moyens donc de limiter les dégâts.
Comment réveiller, Thibaut, notre conscience? Comment la développer?
Eh ben, c'est là où la philosophie peut jouer un peu son rôle. C'est la conviction que je porte. Je voudrais vous proposer 3 petits exercices pour muscler notre conscience et garder notre esprit en forme. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, on peut le pratiquer sans modération. Il n'y a pas de risque de blessure, d'addiction ou de destruction quelconque. Pas d'effet secondaire gênant. Bref, là, faisons-nous vraiment plaisir. Le premier exercice a été mis au point par Descartes dans son fameux discours de la méthode. C'est l'exercice du doute. En doutant de toutes les évidences, de toutes les connaissances, des opinions, de la réalité du monde, et même aller jusqu'à doute de sa propre existence, on finit par prendre conscience de sa propre conscience. Vous savez, c'est le fameux « je pense donc je suis », c'est une formule presque magique d'une conscience en pleine forme qui découvre sa propre puissance. Alors on peut commencer doucement, une fois de temps en temps, et puis ça peut même devenir très régulier, une à deux fois par jour. Remettons en cause, questionnons, nions la réalité, les opinions et le bien fondé de ce que nous faisons ou de ce que nous sommes, vous verrez, ça fait beaucoup de bien à notre esprit critique.
Deuxième exercice.
Voilà, fabriquer ou créer quelque chose dont on est l'auteur direct. Alors pourquoi? Parce que comme le fait remarquer le philosophe Hegel cette fois, ce que l'on crée ou ce que l'on fabrique, ce sont comme des reflets de nous-mêmes à travers lesquels nous prenons donc aussi conscience de nous-mêmes et du monde. Alors on peut commencer tout simplement en cuisinant, en bricolant ou en jardinant, hein. Souvenez-vous de cette fierté du « c'est moi qui l'ai fait ». On peut continuer en jouant de la musique, en faisant de la peinture ou en écrivant de la poésie. Bref, tout ce que nous créons peut nous aider à prendre conscience de notre propre puissance et donc nous aider à la maîtriser. Troisième exercice enfin, la conversation. Alors, la conversation authentique, hein, pas le clash, le débat stérile ou la seule affirmation de ses opinions. Parce que échanger, discuter, communiquer avec les autres, c'est affiner sa propre conscience et développer une conscience commune des choses et des problèmes. À travers la conversation, nous partageons nos jugements, nos intuitions et nos émotions et nous prenons aussi conscience de la conscience des autres. Là encore, ça peut se pratiquer sans modération, à toute heure du jour ou de la nuit, et ça ne coûte rien. Alors voilà, si le bug est humain, la résolution de ce bug doit aussi être humaine. L'idée, ce n'est pas de limiter ou de supprimer la puissance de notre cerveau, mais d'essayer de l'éduquer, de l'orienter différemment pour en retrouver la maîtrise.
Thibaut de Saint-Maurice, Sébastien Boller.
Absolument enchanté d'entendre ça, et notamment sur l'aspect de la création. Je me rends compte que nous ne créons plus rien. Nos journées sont remplies de petits gestes qui consistent à acquérir des choses qui ont été créées ailleurs. Et je pense que c'est assez dévastateur quelque part pour notre bien-être, parce que c'est vrai que la main, le cerveau, l'œil, tout, l'être humain est fait pour agir sur son environnement et pour voir les résultats et comprendre la chaîne d'enchaînement entre l'action et le résultat. Et en réintroduisant ces chaînes d'action et de résultats, par exemple en cuisinant, en bricolant, en ayant un hobby, en cousant, on restaure cette notion de, on va dire, d'impact modeste et rationnel de l'intention sur le résultat, sur le monde. Et je crois que c'est essentiel pour l'équilibre.
Et vous nous incitez dans votre livre à ralentir, et vous faites l'éloge également de la méditation de pleine conscience.
Ah ben oui, parce que la conscience, effectivement, elle se développe très efficacement par cette discipline. Et c'est pas pour rien, à mon avis, qu'elle a autant de succès. C'est que, quelque part, on est en déficit de conscience. L'humanité a développé sans limite son intelligence pour satisfaire son désir, mais la conscience dedans, elle est passée où? Eh ben justement, c'est l'heure d'entrer en scène pour elle.
Et la politique dans tout ça?
La politique, c'est une forme de conscience globalisée. Et je pense qu'on va assister à des choses intéressantes. Ce qui se passe aux États-Unis, par exemple, avec le Green New Deal, il y a des retournements massifs de priorités dans certains partis, comme le Parti démocrate, qui laissent penser qu'il y a un véritable tournant qui est possible dans de la politique lourde. Et si on ne le fait pas, c'est pas la peine.
Merci beaucoup Sébastien Boller d'être venu. Alors je recommande, avec Thibaut de Saint-Maurice, on recommande vivement le bug humain. Le bug humain, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher, c'est publié chez Robert Laffont. Merci Sébastien Boller d'être venu.
Merci à vous.
Demain, à quelques semaines des élections européennes, nous donnerons de la chair à ce vieux continent en vous proposant quelques destinations pour un week-end en Europe. On évoquera également le tourisme de masse qui étouffe, défigure parfois certaines villes comme Barcelone ou Venise. Et vous, quelles sont les villes européennes que vous aimez? Quelles sont vos adresses secrètes, insolites? 01 45 24 7000. Et vous pouvez également participer sur la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse. À la technique ce matin, Loïc Frapsos et Kevin Pelot.